Oui, mais peut-être, merci Monsieur le Président, peut-être en préalable un élément juridique, même si je ne suis pas juriste et que probablement cette affirmation mériterait d'être nuancée par des spécialistes. Il y a une situation d'environnement juridique qui est très spécifique à l'open data public aux États-Unis, c'est le fait que toute donnée publique est de droit dans le domaine public. Donc il ne peut être question de licence, de quelque nature qu'elle soit, s'agissant de données émanant des administrations publiques, tout au moins au niveau fédéral. Donc ça, je crois que c'est un point très important d'environnement. Alors, ce premier point d'environnement étant précisé, il est clair qu'aux États-Unis, ce qui caractérise ce qui s'est passé ces dernières années en matière d'open data, c'est une forte volonté politique au plus haut niveau. Là, vous avez affiché à l'écran le site de la Maison Blanche avec son chapitre Open et une déclaration du président Obama qui date, comme vous le voyez, de janvier 2009, c'est-à-dire quelques mois à peine après sa prise de fonction, et qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'il a appelé un mémorandum, donc je ne vous le donnerai pas plus en détail compte tenu des contraintes de temps, mais qui s'appelle le Memorandum for Open Government, sachant qu'effectivement, pour le président Obama, la notion d'open data s'inscrit dans une vision de l'open government comme un grand projet démocratique autour de trois principes qui sont la transparence, la participation et la collaboration. Simplement la collaboration, pour préciser, puisque les deux autres principes sont assez clairs de par nature, la collaboration, c'est la collaboration entre les différents organes de l'administration. Et ça, je pense que cette transversalité dans le fonctionnement administratif, c'est un thème très important. Alors, donc, décembre 2009, open data dans les priorités du président Obama, et cela se traduit dès janvier 2011 par une directive qui s'appelle la directive for open government, et donc une directive qui est assez contraignante pour l'ensemble des agences gouvernementales fédérales, hein, puisqu'elle prévoit la mise en place dans les 120 jours d'un plan d'open government. Et donc elle oblige les administrations dans les 3 mois à créer des sites d'open data et de les intégrer dans ce qui est mon deuxième affichage, si j'arrive à le trouver. Attendez, est-ce que... Aidez-moi, jeune homme. Oui, c'est là. Voilà. Dans ce site portail, hein, donc qui est un peu l'équivalent de ce que nous avons en France aujourd'hui, donc qui est data.gov, et donc qui reprend l'ensemble des données publiques des administrations fédérales. Alors, c'est un site qui est très riche. Hein, il y a 450 agences fédérales ou administrations du niveau fédéral qui ont agrégé leurs données sur ce site. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, nous manquons de temps. Alors, maintenant, en ce qui concerne effectivement cette mise en œuvre de cette directive, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que, certes, la volonté politique au plus haut niveau est là. Elle a été maintenue, puisque ce dossier est suivi, j'allais dire au jour le jour, mais enfin suivi de près par le vice-président Joe Biden, qui a cette problématique dans son portefeuille de vice-président, mais elle est freinée par des contraintes budgétaires. Parce que, certes, la volonté du président a été affirmée, réaffirmée, elle est, comme je vous le disais, tenue, la flamme est tenue par le vice-président, mais dans le cadre des débats budgétaires de 2011, là, le budget open data a été très fortement réduit, et de 37 millions de dollars en 2010, c'est passé à peu près à 2 millions de dollars. Donc il y a eu des coupes budgétaires sombres qui font qu'effectivement, cette volonté politique est aujourd'hui freinée par des contraintes budgétaires. Cette volonté politique est aussi freinée par le fait qu'il y a eu des difficultés dans la mise en place des formats. Les utilisateurs se sont plaints de difficultés de réutilisation d'un certain nombre de données fédérales du fait d'un manque d'harmonisation des formats. Et ça, je pense que c'est une difficulté qu'on a rencontrée dans d'autres contextes, y compris le contexte français. Alors, ceci étant dit, l'implication du secteur privé est favorisée aussi par une volonté politique à travers ce que le gouvernement américain appelle les XD. Alors, je ne pense qu'on peut le retrouver. Attendez, là, je ne suis pas très bon. Ah, voilà, c'était sur le White House. Attendez, c'est lequel ? C'est sur le White House. Ah, attendez. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, les Hacks Day. Les Hacks Day. Les Hacks Day, ce sont des journées dans lesquelles donc, on organise, en fait, un peu ce que vous avez décrit en France, des concours sur les initiatives privées. Donc, on ouvre dans le cadre d'événements professionnels ouverts aux entrepreneurs, des concours pour proposer les initiatives les plus innovantes. Alors, sachant ce que je viens de dire sur la volonté politique, mais aussi sur les contraintes réelles, à la fois de terrain liées à des questions techniques de formatage, que les contraintes budgétaires liées à la réduction des moyens mis en place sur cette politique d'open data, il faut voir que parallèlement se développent des initiatives locales au niveau des municipalités qui sont très dynamiques. Alors elles sont, par exemple, là je donne le site de San Francisco, on aurait pu prendre celui de Seattle, on aurait pu prendre celui de Washington DC, on aurait pu prendre celui de Chicago. Et là, on voit effectivement tout de suite le côté très utilisable, très user-friendly de ces sites. Alors, voilà, ça, c'est le 311, hein, c'est le numéro des urgences, les incidents des crimes, vous voyez, bon, là, les crimes, voilà, les lieux de contact avec les administrations. Alors, ces sites municipaux sont particulièrement intéressants du point de vue économique, parce que c'est eux qui, au jour d'aujourd'hui, servent d'appui au développement d'un véritable secteur de l'open data, de secteur d'initiative privée. Autant autour de data.gov, le site fédéral, peu de développement se sont avérés rentables. Autant autour des sites locaux, municipaux, on voit un véritable écosystème entrepreneurial se mettre en place. Alors, c'est à l'évidence, tout ce qui est données liées à la géolocalisation, données liées aux données météo. Hein. Ah oui, liées aux données météo. Ça, là-dessus, on voit un vrai secteur véritablement créateur d'emplois. Sachant que, en la matière, et je sors un peu du cadrage de mon intervention, c'est également, et peut-être prioritairement au jour d'aujourd'hui, en Europe, que les choses sont les plus dynamiques. Je dirais que lorsqu'on regarde ce qui se passe en Allemagne ou en Grande-Bretagne, on voit des exemples qui sont peut-être plus remarquables que ce que l'on peut observer aux États-Unis. Et je pense en particulier à l'Allemagne, où le secteur de la géolocalisation et de l'utilisation des renseignements météorologiques a, selon un rapport récent de la Commission européenne, créé des dizaines de milliers d'emplois. Je veux dire, c'est un secteur massivement créateur d'emplois. Donc, effectivement, le secteur des collectivités, enfin, ce qu'on pourrait appeler les collectivités territoriales au sens américain, qu'il s'agisse d'ailleurs aussi des États, on aurait pu prendre un site d'État qui a aussi un certain nombre de données publiques à valeur ajoutée, mais que des municipalités est réellement créateur de valeur ajoutée. Donc, en résumé, une volonté politique très forte, qui est maintenue malgré un contexte budgétaire difficile, mais un potentiel de valorisation qui reste encore important et qui est tout spécifiquement au niveau des collectivités territoriales, les États et singulièrement les municipalités. Voilà, voilà ce que je pourrais dire pour rester très bref compte tenu de nos contraintes de temps. Voilà, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur Cosne. Ce que je